Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour, bonjour, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à midi pour 2h d'infos. 10h midi, 10h-11h, les médias avec Rémi Pernelet, sans Gilles Gansman aujourd'hui.
Bonjour. Et oui, bonjour Valérie.
Et oui, Gilles, on n'est que tous les deux, mais c'est très bien comme ça aussi. On va recevoir
bon,
Jérémy.
On pense à Gilles, on lui fait
oui,
un coucou.
Oui, on lui fait un petit coucou. On va recevoir Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari qui est en tournée depuis presque 2 ans. Son one-man show va être diffusé
sur
C8 samedi soir, vend 2 pièces à Beyrouth. On va, si vous voulez lui parler, lui poser des questions, 0826-300-300, vous savez qu'il ose tout, il n'a aucun tabou, et il est très très drôle. Et puis on va parler des Françaises et de leur sexualité, c'est un documentaire, une enquête qui est diffusée ce soir sur Teva, les Françaises au lit, avec un grand sondage, assez intéressant, on va dire, je ne veux pas dire étonnant, parce que ça m'engagerait, mais je veux dire assez étonnant. On en reparlera dans quelques instants. Et on commence avec les audiences, Rémi.
Sud Radio, le 10h midi, les médias découvrons les audiences.
Alors, les audiences, le carton.
Bah oui, le carton, comme prévu hier pour le lancement de la série La vérité sur l'affaire Harry Kéber sur TF1. 5 647 000 téléspectateurs, 22,7% pour le premier épisode de la série adaptée du livre de Joël Dicker. C'est ouais. Bon, c'est pas le carton.
C'est en dessous des 6 millions. On imaginait que ça allait faire plus.
C'est quand même 1 500 000 téléspectateurs de plus qu'Esprit criminel la semaine dernière. C'est largement en tête des audiences. Mm. C'est devant, par exemple, 10% qui a réuni 3 277 000 téléspectateurs.
Un peu moins que la semaine dernière.
Pour les épisodes, oui, 1 million de moins que la semaine dernière. Donc,
Mais c'est un bon score.
Alors, nous avons gagné, je vous rappelle.
Nous avons gagné, on avait dit
1, 2, 6, et c'est bien 1, 2, 6, et puis Gilles avait parié sur 10%. Bah, il s'est enfui, c'est pour ça, en fait, qu'il n'est pas là aujourd'hui,
c'est
qu'il a perdu.
C'est la fuite, voilà. Mais des commentaires, pas forcément, les gens étaient un peu déçus par Harry Kéber.
Alors, apparemment, beaucoup, les gens qui ont lu le livre sont déçus. Après, il y a quand même un total de téléspectateurs de 5 647 000, et presque reste presque à égalité pour la deuxième partie, puisqu'il y avait 2 épisodes de diffusés. Donc, il y a une satisfaction des gens. Oui. Sauf sans doute les lecteurs, ils trouvent qu'il manque des scènes. Bah, oui, évidemment,
qu'ils ne l'avaient pas imaginé comme ça. Mais en tout cas, c'est un très bon score pour TF1. Le Gadin,
écoutez, c'est encore, mais ça s'aggrave, pour Access sur C8, 338 000 téléspectateurs pour la série comique avec Ahmed Silla hier. C'est 200 000 de moins que la semaine dernière. En fait, c'est un score bien pire que le jeu Strike il y a un mois. Le flop devient monumental pour C8 et je pense que la déprogrammation se profile.
Il y avait encore beaucoup d'épisodes, vous savez ?
Écoutez, je ne sais pas combien il en restait, mais on doit avoir dépassé la moitié. Il en reste encore pas mal, je pense.
C'est dommage parce que Ahmed Silla est vraiment formidable. Moi, j'ai zappé. Il a un talent comique absolument indéniable.
Mais c'est peut-être un problème
de programmation.
C'est peut-être pas un prime,
absolument. Et puis la surprise.
La surprise, le très bon score pour Burger Quiz sur TMC qui repasse au-dessus de la barre du million, 1 200 000 téléspectateurs.
C'était les dernières aussi, la dernière d'Alain Chabat.
C'était le jeu qui était présenté par Alain Chabat pour la dernière fois. Il y avait pas mal de surprises. Et puis pour les prochaines émissions, il va laisser la place à d'autres présentateurs.
Oui, dont Gérard Darmon,
qui va être, je pense, excellent. Ouais. Puis je signalerai aussi peut-être une petite baisse pour Touche pas à mon poste sur C8 qui repasse à son score plus habituel. 1 318 000 téléspectateurs. Avant-hier, c'était un carton énorme. Ils recevaient hier Liane Folie et Wendy Bouchard, mais aussi des Gilets jaunes.
Ouais.
Et puis, Touche pas à mon poste, quasi égalité avec C'est à vous, et dépassé par Quotidien, qui fait 1 478 000 téléspectateurs. Tous les talk shows d'Access hier ont un peu baissé.
Et Cyril Hanouna annonce donc que ça va continuer avec les Gilets jaunes. Il paye le transport à 6 Gilets jaunes toulousains pour venir sur son plateau.
Il espère retrouver le score d'avant-hier.
On va suivre ça. Allez, on va prendre nos auditeurs. On a Nathalie qui nous appelle de Gironde. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez regardé hier soir ?
Alors moi j'ai regardé 10%.
Je regarde
la série depuis la première saison. Donc,
et vous êtes toujours, ça vous plaît toujours autant ? Vous trouvez qu'il y a une petite baisse de régime ?
Alors, je trouve qu'il y a une petite baisse de régime, effectivement. Ça s'essouffle un petit peu. C'est un petit peu moins drôle que les deux saisons précédentes. Ouais.
Je suis un petit peu d'accord, c'est vrai que ça se regarde avec énormément de plaisir.
Oui, c'est quand même agréable, c'est léger.
C'est toujours très sympa.
Que ça s'essouffle un peu, je suis d'accord.
Et Harry Kéber, vous n'avez pas eu envie de regarder ?
Ben si, mais je le verrai en replay, éventuellement.
Voilà. Ben oui, il faudra qu'on surveille les chiffres du replay. Merci Nathalie. Florence est en ligne. Au revoir Nathalie. Florence, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous avez regardé, vous, hier soir ?
Moi, j'ai regardé Des Rapides et des Belles.
Ah, Et c'était sur la région Île-de-France, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Oui. Vous êtes une fidèle téléspectatrice de l'émission ?
Assez souvent, oui.
Et alors, qu'est-ce qui vous plaît ? C'est les grands paysages
ou l'aspect culturel ? Les vues aériennes, les jardins.
Ouais.
Les jardins, c'est mon métier, donc j'ai un œil de téléspectateur et un œil de professionnel.
Ah, vous cherchez des idées, quoi, c'est ça ?
Des idées, non, plutôt admiratives des travaux réalisés.
Ouais. Et comment vous choisissez vos programmes le soir ? C'est-à-dire que vous n'avez pas eu envie d'aller voir justement Henri Kébert ou 10%?
Non, moi je suis plus reportage.
Ouais,
90 minutes d'enquête, des choses comme ça.
Moins fiction. Bon, et donc c'était un bon numéro des Racines et des Ailes.
Oui.
Ça vous a plu. Bon, bah très bien. Eh ben écoutez, on vous remercie de nous avoir appelés et puis restez fidèles à Sud Radio. Merci à vous, Florence.
Oui, il a bien marché. Il a fait plus de 2 millions de téléspectateurs. C'est
oui, il y a
score.
Des fidèles, il y a des publics tout à fait fidèles. Donc on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors,
Valérie, je prends la suite de Gilles.
Gilles,
hein. On va commencer avec Burger Quiz, on en parlait à l'instant, c'était pour la dernière émission présentée par Alain Chabat, il y a eu plusieurs happenings. Alors là, on va vous parler de l'épreuve du burger de la mort, vous savez, Alain Chabat pose 10 questions à la suite et le candidat doit mémoriser les 10
réponses
et toutes les données après la fin des questions. Et là, c'est Marina Foïs qui va s'y prêter. Elle faisait partie des candidats de la version originale de Burger Quiz il y a 15 ans. Et alors, dans la version 2018, cette année, elle rappelle sans arrêt à Chabat qu'à l'époque, ils étaient payés. Vous allez voir qu'Alain Chabat l'a entendu, enfin, presque.
Alors, vous voulez que je vous les répète à toute berzingue toutes ou pas ? Où ça va ? On y va.
Ah, on y va.
Allez, ok, quand vous voulez.
Kev Adams,
ouais.
Faux,
oui.
Moi, Saint-Étienne, caca, beaucoup de caca.
Oui.
Mar, connasse, avec Farouja, The Voice. Oui, blonde, ce serait mieux.
Ouais.
Et faux.
Wow! Wow, 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 wow! Vous avez donc le droit d'être rémunéré comme vous l'étiez il y a 15 ans.
Là, évidemment, on le voit pas à la radio, mais il arrive avec un chèque géant, avec écrit dessus 3 000 francs.
Ah,
donc
oui,
évidemment, il n'y a
pas
de rémunération.
Il n'y a pas vraiment de rémunération.
Mais enfin bon, ça a bien marché, c'était très festif, c'est toujours assez sympa. Quoi.
Ouais. Autre son qui a retenu votre attention. Ouais,
alors écoutez, là, on va faire une petite séquence gilets jaunes. Vous voyez, depuis le début de la semaine, les gilets jaunes, ils sont partout, on les voit sur les plateaux, tout le monde se réfère à eux.
Ouais.
Mais il faut essayer de se démarquer. Alors 19h45 à trouver en musique.
De toutes les chansons pro-gilets jaunes publiées sur Internet,
je mets mon gilet.
Celle qui est en train de devenir l'hymne de la mobilisation, la voici.
Je suis descendu un 17 en bas de chez moi.
Sur un air d'une chanson de Jean-Jacques Goldman,
les gilets jaunes étaient tous là.
Un Rennais du nom de Monsieur Sebi comptabilise plus de 2,5 millions de vues.
Il y en a trop marre, Brigitte, sérieux, fait quelque chose.
Incroyable.
Alors la musique, ça a inspiré d'autres. Alors sur Quotidien, par exemple, le même thème, mais par quelqu'un d'autre, c'est une animatrice, Alison Wheeler, vous allez l'entendre.
Nous les gilets jaunes, on conduit nuit après jour, après nuit, à quoi ça sert un plein trop cher, je vais faire tuer par ma banquière, à quoi ça sert un plein trop cher.
Oui, ça sert à tout hein, quand même les gilets jaunes.
Oui.
Ça
je ne sais pas si Jean-Jacques Melman est très content.
Ah, ça, c'est pas sûr.
Non,
il aime généralement
sûr.
Pas beaucoup qu'on détourne le moindre mot de ses chansons.
Ouais.
Alors, il y avait aussi Patrick Sébastien, qui va bientôt être chez nous, mais qui est en ce moment en campagne de promotion pour son livre. Et si on était bienveillant, il était sur E24 News. Alors, il parlait de son livre, mais enfin, il parlait aussi d'autre chose.
Tu sais, les gilets jaunes qui sont dans la rue, c'est ma France, moi. C'est la mienne.
C'est la France qui vous regarde, c'est la France que vous aimez.
Ils ne me regardent pas tous, ils ne m'aiment pas tous, mais c'est ma France, ça correspond à ma France. C'est ces gens à qui on parle mal, qu'on traite mal, et moi je crains fort que ça dégénère encore plus. Je ne suis pas d'accord sur la méthode. Parce que quand même, là, j'ai vu, on se met sur la gueule entre nous. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leur essence et qui embêtent d'autres gens qui ont des problèmes avec leur essence. Il y a eu des blessés. Moi, je me mets à la place des gouvernants, ils doivent se marrer. Ils sont au-dessus, ils nous regardent nous battre entre nous. Il faut s'unir contre les gens qui décident ça. Il ne faut pas se battre entre nous.
C'est pas mal quand même.
C'est
vrai que c'est un mouvement populaire.
Ouais,
et quand il dit les gilets jaunes, c'est moi.
Il n'y a pas eu beaucoup d'artistes, on le disait hier, il y a eu Pierre Perret et il n'y a pas eu beaucoup d'artistes qui ont soutenu, enfin qui ont affiché leur soutien aux Gilets jaunes.
Non, pas beaucoup, hein, pas beaucoup, non. Sauf Cyril Hanouna, vous voyez, oui. Cyril Hanouna, c'est pas un artiste, hein, mais c'est un animateur. Alors il les avait reçus mardi, comme je vous le disais tout à l'heure, près d'1,9 million de téléspectateurs, donc évidemment, il les a fait revenir hier. C'était pas les mêmes, là le thème c'était « Le gouvernement vous entend-il ?» Ben, vous allez voir, la réponse, c'est pas évident.
Est-ce que le gouvernement commence à vous entendre?
Pas du tout.
Le gouvernement, il a encore durci cet après-midi. Emmanuel Macron a encore durci.
Non, ils ont dit qu'ils étaient en train d'essayer de trouver des solutions.
Quelle solution? Moi, je vous dis une chose, sincèrement, si le gouvernement nous avait entendu, on a demandé, tout est parti, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est bien cette hausse des taxes du carburant. On est d'accord.
Voilà,
je suis désolé, l'ampleur que prend ce mouvement-là, effectivement, on le rappelle qu'il y a eu des décès, il y a des blessés, ça aurait été quand même été de mise au moins de dire... écoutez, en attendant le temps de désamorcer cette situation-là, on va reculer, on verra plus tard la taxe, la hausse des carburants.
Eh oui, bah, on va en reparler, nous, à 11h, justement, sur la fermeté du gouvernement. Pas évident d'être ferme quand on a près de 70% de la population qui soutient le mouvement. Donc, on va en reparler.
Et puis là, maintenant, il y a donc table ouverte chez Cyril Hanouna, puisque il annonce à chaque fois qu'il va faire venir tous les jours des gilets jaunes.
Donc, il les soutient.
Ouais, pour lui.
Voilà. Bon. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Jérémy Ferrari pour son one-man show « Vend deux pièces à Beyrouth » qui sera diffusé sur C8 samedi soir, 0826 300 300. Si vous avez envie de dialoguer avec Jérémy Ferrari, nous vous attendons. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est Jérémy Ferrari. Ça réveille le matin d'avoir Jérémy Ferrari en plateau avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
C8 va diffuser samedi soir votre spectacle Vend deux pièces à Beyrouth. C'est un spectacle que vous produisez sur scène, seul, un one-man show depuis 2 ans maintenant, c'est ça?
Ouais, un peu plus de 2 ans.
Un peu plus de 2 ans. Et puis un documentaire à 23h30, Jérémy Ferrari, emporté par la fougue. C'est un documentaire réalisé par Thierry Colby qui vous a suivi pendant près d'un an, un petit peu partout dans le monde, dans vos tournées. Il a interrogé des proches, même en vacances, oui, absolument, en canoë, c'est ça, en kayak.
Ouais, il a eu du mal à avoir des images en vacances, on a dû l'organiser, le caler dans le planning, parce qu'il n'y avait pas de vacances de prévu.
Mais oui, c'était pour le tournage, vous ne partez jamais en vacances, c'est
pas,
ça c'était...
Pas beaucoup.
Donc le documentaire est faux, quoi, en gros, on raconte n'importe
non,
quoi.
Non, parce que du coup, j'en ai profité pour prendre réellement une semaine de vacances, mais j'avais prévu de la prendre un peu plus tard. Mais je prends toujours des vacances dans cet endroit, et je vais toujours faire du canoë.
Toujours du kayak, toujours du kayak. Bien compris, vous, c'est le kayak.
Alors, Jérémy Ferrari, quand on tape votre nom sur Internet, quand on commence par Jérémy, avant vous, il y a Jérémy Irons, donc le comédien, après, il y a Jérémy Mix, je ne sais pas si vous savez qui c'est.
Non.
C'est le mannequin comédien criminel. C'est celui qui a des très beaux yeux bleus.
C'est un joli CV, vous.
Voilà.
Vous
ensuite, il y a Jérémy Frérot.
D'accord.
Après, il y a Jérémy Lynn, qui est un basketteur chez les Hawks d'Atlanta. Et ensuite, Jérémy Ferrari. Donc, pas mal quand même.
Donc, je suis en dernier quand on tape.
Non, il y en a deux derrière vous. Il y en a plein. Je vous donne les autres. Et alors, après, quand on tape.
On va être gentil, on donne pas le nom des gens qui sont derrière vous. Voyez.
Après, quand on tape Jérémy Ferrari, il y a spectacle, vend deux pièces à Beyrouth, DVD. On ne demande qu'à en rire. Alléluia, bordel. Sketch, spectacle et femme. Donc finalement.
Oui, ça intéresse, c'est ce qui intéresse le moins les gens. C'est bien. Bah,
c'est pas mal, non?
Moi, je trouve ça très chouette.
C'est plutôt chouette qu'on ne dise pas compagne, amie, etc.
Ça prouve que les gens s'intéressent plus au spectacle qu'à ma vie privée.
Mais voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc vous avez été révélé par l'émission On ne demande qu'à en rire sur France 2. C'était en 2010, c'est ça, entre 2010 et 2012. Et c'est vrai que vous avez un humour très noir, très. Vous riez de tout, en fait. Et c'est vrai que. Bah, ça fait du bien aujourd'hui où on sent qu'il y a un petit peu plus de limites qui sont mises. Moi, la question que je me posais, c'est comment on arrive à cet humour-là? Comment on est, comment on a cette tournure d'esprit de se moquer de tout, de l'obésité, du suicide, du racisme? Votre spectacle commence très fort avec les attentats. Comment ça vous est venu?
En fait, je ne me suis jamais posé la question de savoir quel type d'humour j'allais faire. Moi, c'était l'humour que j'avais et que je pratiquais au quotidien. Après, quand j'ai fait On ne demande qu'à en rire, c'est vrai qu'on a mis un nom sur ce que je faisais. On a appelé ça humour noir, ce que j'accepte, parce que c'est vrai que c'est l'humour noir. Même si parfois, je trouve ça un peu réducteur, parce que humour noir, moi, j'ai toujours l'image d'un mec qui nous fait une heure et demie de vanne sur le cancer de manière totalement gratos. Et c'est quand même très éloigné de ce que je fais. Donc,
non,
mais c'est iconoclaste,
en fait. Mais en tout cas, Moi, je pense que ça fonctionne parce que c'est dans, dans la sincérité. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste, je parle juste de la vie. Dans la vie, il y a des choses chouettes et puis des choses qui sont parfois moins chouettes. Moi, je me concentre sur les choses moins chouettes parce que je trouve que c'est ce qui permet aux gens, quand on est sur scène et qu'on va sur ces sujets-là, c'est ce qui apporte le plus de rire. Et ce qui fait le plus de bien.
Oui. C'est l'humour noir, la définition, c'est une forme d'humour qui souligne avec cruauté, amertume et parfois désespoir l'absurdité du monde face à laquelle.
Voilà. Le mec avec la définition n'était pas très drôle. Déjà.
Non, il n'était pas très drôle, mais je suis d'accord. Mais c'est une manière de dire que oui, vous avez. Vous, moi, j'ai été. Je ne vous avais pas vu sur scène. J'avais vu les, quand vous étiez chez Laurent Ruquier. C'est vrai que votre spectacle, on est un peu saisi quand même. Vous dites aux gens qui sont dans la salle, bon, ben voilà, il y a eu le Bataclan. Il est possible, il y a même certains qui auront peut-être un attentat ce soir.
Oui, mais c'est un bon exemple. Parce que ouais. Vous voyez. De ce que j'appelle ne pas faire les choses gratuitement parce que ouais. C'est ça qui est important arriver et faire des vannes horribles sur un sujet de juste parce qu'on a envie de donner son avis sur un sujet de manière totalement gratuite pour moi c'est loupé, c'est pas ça faire de l'humour. Pour moi il faut prendre un sujet, il faut qu'il y ait un fond, il faut qu'il y ait une dénonciation derrière. Quand j'ai écrit Vente de pièces à Beyrouth, j'avais déjà prévu de parler des attentats, de la guerre, des conflits armés, de la géopolitique, etc. Et il se trouve que j'ai fini d'écrire le spectacle et 3 mois après c'est ma première, et 3 mois avant ma première il y a les attaques du Bataclan.
Donc c'est là où vous avez réécrit en fait.
Oui, ouais. Je suis complètement obligé de réécrire le spectacle parce que, enfin, en tout cas, ouais. Le début. Parce que comment vous voulez que je me dise, ouais. Je suis obligé d'en parler, mais comment j'en parle, ouais. Et ça, c'est un très bon exemple parce que je me dis, de quelle manière je parle de ça. On est tous bouleversés, moi aussi. Donc déjà, faut prendre le recul. Et comment je vais traiter ça avec mon humour. Si je le traite avec plus de douceur. Ça va gêner tout le monde, ouais, les gens vont ouais. Pas comprendre. Si j'en parle pas, les gens comprennent pas. Et si j'en parle,
il y a pas de douceur, hein, je vous rassure.
Alors exactement. Pourquoi ? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis dit, ce sujet, il est tellement, c'est tellement pas le moment d'en parler. Mais je suis tellement obligé de le faire que je vais le faire à 400%. Donc je vais démarrer le spectacle avec ça et je vais pas être méchant à 100%. Je vais être méchant à 400% parce que plus vous allez loin, plus c'est absurde, parce que moins c'est crédible. Si vous faites une vanne d'humour noir à 100%, c'est crédible. 80%, c'est gênant et c'est crédible et c'est moins drôle. 400%, on se dit, personne n'est aussi méchant. Même la plus grosse pourriture de l'humanité, elle va mettre un peu de forme pour dire ça. Jamais elle dira ça comme ça. Ouais. Donc c'est là où les gens peuvent prendre le recul.
J'ai eu des retours. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Hein, ouais. Mais est-ce que vous avez des retours des gens qui sont un peu gênés quand même?
Ça peut après maintenant c'est le deuxième spectacle, la plupart des gens quand même qui viennent,
oui, comme ils vous connaissent, ils
viennent généralement savent. Ouais. Après il est certain que surtout encore une fois dans les premières représentations où vraiment le Bataclan venait d'arriver, ça c'est arrivé parfois que pendant une ou deux minutes les gens soient blanc, un peu ouais. Circonspects, mais il est complètement taré, est-ce qu'il va vraiment il va là-dessus, et puis qui va être le premier à rire, et ouais. Puis ouais, comme en fait je ne fais que aller de plus en plus loin, et que le sketch sur le Bataclan, il dure pas 3 minutes, il dure 20 minutes.
Ouais,
donc,
ouais,
de toute façon, soit tu sors, soit tu ris, parce que de toute façon, je n'arrête pas d'aller de plus en plus loin. Et au final, il y a eu très 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 peu de gens qui partaient, genre pas plus que sur l'ancien spectacle sur la religion, par exemple.
Vous avez vous avez la trouille quand même. Enfin, c'est ce que vous dites dans le documentaire, que parfois vous avez la trouille quand même quand vous montez sur scène. Vous ne savez pas la réaction que vont avoir les gens.
Ah, là, c'est vraiment la plus grande peur de ma vie, ce truc du Bataclan. Parce que donc, déjà, j'ai un nouveau spectacle qui dure 2 heures, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En plus, j'ai écrit 20 minutes sur le Bataclan. Ouais. Je veux dire, au moment où moi je monte sur scène, les gens sont fouillés avant d'entrer dans le théâtre.
Ouais, hein,
et c'est quelque chose qui est nouveau. On ne fait parler que de ça à télévision. Et je dois monter sur une scène devant 1000 personnes et dire bon, de toute façon, on va forcément se faire attaquer ce soir. Je veux que vous mouriez avec plus de classe que ceux qui nous ont fait là-bas. C'est quand même, j'ai quand même conscience de ce que je dis. Donc oui, je suis terrorisé. Et en même temps, je sais que je le fais pour les bonnes raisons. Ouais. Et comme je sais que je suis bienveillant et que j'ai pas de.
C'est pas gratuit, c'est ce que vous dites.
Voilà, c'est là où je trouve la force d'y aller en me disant je fais quelque chose qui est sincère et qui est chouette pour les gens et tu vas y aller et ils vont le sentir. Et c'est ça qui fait que j'ai ce lien avec les gens.
Rémi.
Oui, dans Alléluia Bordel, et vous parlez, votre spectacle était sur la religion, mais là aussi, dans votre Vente de pièces à Beyrouth, il y a aussi l'histoire des religions. C'est un thème qui vous. Alors que vous affichez athée, pourquoi vous tenez tant à. C'est pour leur taper dessus ?
Non, pas du tout, parce que moi, très sincèrement, déjà, il y a plein d'axes différents et plein de manières de parler de la religion différente. En l'occurrence, sur le premier spectacle, je parlais des extrémismes religieux et du communautarisme de manière générale. Et c'était une volonté de rassemblement, au contraire. Et en aucun cas, dans le premier spectacle, par exemple, je me moquais de la foi ou des croyants, parce que moi, je ne suis pas croyant, mais ça irait contre mon message. Moi, je suis pour la liberté d'expression et de pensée et de parole. Donc, chacun fait ce qu'il veut. C'était vraiment pour
là, ça change un peu. Pour sur le deuxième.
Sur le deuxième, je donne pas mon avis non plus. Si vous écoutez,
vous moquez un peu.
Après, je sais pas ce que vous appelez vous moquer. Ouais. Après, je suis un humoriste, donc forcément, je fais un peu des vannes et je taquine. Bon, mais sur le vent de pièces à Beyrouth.
Jésus et tous ses apôtres, ils étaient tous gays là-dedans.
Bah, ça, c'est des faits. le truc, c'est que sur vent de pièces à Beyrouth, je suis obligé d'évoquer la religion à partir du moment où c'est un conflit armé où on parle d'un groupuscule qui se revendique.
Vous nous faites une histoire, religion, effectivement, de l'islamisme.
Mais vous documentez vachement.
Je fais pas une histoire de l'islamisme, je fais une histoire de
la religion musulmane.
De la religion musulmane.
Je suis d'accord.
Et j'évoque évidemment les extrémistes religieux à l'intérieur de l'histoire de la religion musulmane.
Allez, on se retrouve dans un instant avec Jérémy Ferrari, 0826 300 300. On parle de son spectacle qui sera diffusé sur C8 samedi soir à 21h avec un documentaire à suivre. Jérémy Ferrari, emporté par la fougue. On y revient dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio avec Jérémy Ferrari. Jérémy Ferrari qui sera sur scène dans votre petit écran sur C8. Donc, vend deux pièces à Beyrouth, ce spectacle, Jérémy Ferrari, que vous jouez depuis ce One Man Show depuis 2 ans maintenant. Il y a un DVD également, on le signale pour les fêtes de Noël. C'est aussi un bon cadeau. Et puis, un documentaire, Jérémy Ferrari, emporté par la fougue, qui retrace votre carrière. Une question, et on en parlait pendant la coupure, comment on devient humain? Maurice, comment on fait du one-man show? Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi?
Quand j'étais petit, je voulais faire ça. Alors, je sais pas comment on dit humoriste, sinon j'aurais mis moins de temps. mais je crois qu'il n'y a pas de formule.
Vous n'avez pas mis très longtemps, vous avez commencé jeune quand même.
Ah, mais c'est pas parce qu'on commence jeune
qu'on réussit tout de suite.
Les années de 17 ans à presque 27, ça fait 10 ans, pareil que si c'est de 27 à 37. Donc ça restait pour moi, en tout cas, ça a été... long. En fait, c'est pas le fait que ce soit ça mette 10 ans, parce que j'avais même pas vocation, moi, de réussir, devenir une star. Ouais. Moi, je voulais juste gagner ma vie avec mon métier. Ce qui était difficile, c'est qu'avec ce que je faisais comme humour, j'étais même pas intermittent. J'arrivais même pas à gagner ma vie avec mon métier. Ouais. C'est ça qui était plutôt difficile et long. Après, ce qui, moi, m'a donné envie de faire ce métier, c'est que ma mère adorait Pierre Palmade. Et un jour, je la vois se marrer devant le Scrabble de Pierre Palmade. Je sais pas si on visualise, mais il est assis à une table. Il y a 3 personnages imaginés autour de lui, sa fille, son fils et sa femme. Et en fait, moi, je ne comprends pas. J'ai 9 ans, 10 ans, et j'arrive pas à comprendre le concept de ce mec qui parle à des personnages imaginaires et qui nous fait rire avec. Et je trouve ça magique, moi, en fait. Et donc, ça me passionne et je me mets à regarder les vidéos. Je sais pas si ça me fait rire, mais juste j'analyse, en fait, la manière dont je comprends pas comment il fait pour mettre des images dans notre tête. Et puis, après, je pars à Paris pour essayer de percer dans ce milieu. Et puis après, moi, en tout cas, parce que je sais pas si j'ai le même parcours que tout le monde, mais en tout cas, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'étais absolument déterminé à ne pas changer ce que je faisais. Parce que j'étais, quand j'essayais j'ai essayé de faire des castings pour des éponges ou des trucs comme ça. Mais ça,
c'est pas comédien, votre truc. C'est
interpréter des choses qui ne correspondent pas à ce que j'ai envie de faire ou à ce que j'aime. J'étais incapable de faire quelque chose que j'aimais pas. Donc je me suis dit, ça sera ça ou rien. Et après, c'est vraiment...
Ça a failli être rien, d'ailleurs. Hein, vous avez hésité.
Ça a failli être rien. Ouais. On n'est vraiment pas passé loin du rien. Ouais.
Et c'est votre mère, vous le racontez dans une interview, qui aussi a une forme d'humour très particulière, a beaucoup joué avec vous et qui a fait, c'est un peu la question que je vous posais au début, qui a fait que vous avez cette tournure d'esprit, ce regard qui est très particulier sur et cette manière d'exprimer l'humour.
Oui, parce qu'on est des gens... moi, je dis toujours, je suis un vrai terrien dans le sens où... on est des gens qui avons toujours, je dis nous, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi, mes parents. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, mes parents étaient le commerçant de proximité.
Charleville-Mézières,
dans un quartier à Charleville-Mézières. Et mes parents m'ont jamais menti, m'ont jamais essayé d'arrondir les angles sur parfois la cruauté de ce monde. Ils ont toujours été très cash. Mmh. Et la manière qu'avait ma mère de faire passer les trucs, c'était d'en rire. Donc, quand on est fils de commerçant dans un quartier populaire, moi, je ne stigmatise pas les quartiers. Je suis le premier à dire qu'il y a des choses magnifiques, de la force, du courage, de l'abnégation. Enfin, voilà, des gens. Puis, tout simplement, des gens normaux. Et puis, vous avez, évidemment, des gens qui sont écrasés par la vie, des choses plus difficiles. Et c'est vrai que ma mère, parfois, quand moi, j'étais dans le magasin et que je voyais quelque chose qui se passait, fallait bien arriver à me l'expliquer. Et donc je me rappelle un matin, par exemple, c'est un exemple que j'ai ai des millions, hein, mais un exemple, c'est une dame qui rentre dans la boutique de mes parents, mais je sais pas, il est 8h30 du matin, et elle est complètement bourrée, et elle rentre dans la boutique, elle se penche pour attraper encore des bouteilles de rosé, et elle tombe dans le rayon des bouteilles de rosé. Donc là, moi j'ai 8-9 ans, je vois ça, il est 9h du matin, je dis à ma mère, pourquoi elle fait ça, la dame? Et ma mère me dit, bah t'as vu la tête qu'elle a, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'autre? Puis voilà, et donc je rigole, et on passe à autre chose.
On comprend mieux, oui.
Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucune explication cohérente à donner à un enfant de 9 ans, alors vaut mieux le faire rire. Ouais. Et puis après, elle me prend par la main, puis on va faire autre chose. Ouais. Donc c'était une manière que m'a donnée ma mère de regarder les choses avec lucidité, sans en être trop affecté.
Vous faites partie du top 5 des spectacles les one-man shows les plus vus en 2016. C'était l'année dernière avec Jeff Panaclock, Eric Antoine. Vous faites vraiment partie de cette nouvelle génération d'humoristes. Je sais pas comment on dit, je trouve pas le mot, c'est humoriste que...
Oui, c'est humoriste.
Humoriste. Donc vous avez trouvé votre place en fait, avec un style bien particulier.
Parce que les gens... On a toujours voulu nous faire croire que l'humour noir ou provocateur était segmentant. Moi je suis absolument pas d'accord avec ça. D'ailleurs ça me fait toujours marrer parce que toujours, l'humour noir c'est segmentant, et après quand on nous cite deux humoristes préférés des Français, on nous cite des Proges et Coluche,
ben oui,
qui sont des représentants de l'humour noir. Donc je crois que c'est pas vrai. Moi je crois simplement que jamais un humoriste n'a fait l'unanimité. Seulement un mec qui fait des trucs comme moi, moi, je te laisse pas indifférent. Si tu aimes pas ce que je fais, c'est pas juste te fais pas rire, c'est que je te dérange. Donc, tu vas en parler. Tu vas dire Ferrari, je l'aime pas. Alors que quelqu'un qui fait de l'humour plus accessible, plus lisse, soit il te fait marrer, soit il t'indiffère. Donc, je crois pas
que plus clivant, quoi.
Je crois pas que ce soit plus segmentant qu'un autre humour, parce que je crois justement que l'humour provoque, etc., etc. C'est ce qu'il y a de plus sincère avec les gens. Et je crois que les gens ont surtout besoin de sincérité. Les gens sont pas bêtes. On peut aller très très loin.
Exemple avec les handicapés.
Oui, de toute façon, à la télévision, j'ai fait tous les thèmes possibles. Mais ça m'amusait, moi, je m'étais fait une grille dans ma tête, j'ai dit, je vais faire tous les thèmes possibles et plus chauds, parce que c'était mon challenge personnel, je m'amusais avec ça. Et à partir du moment où on fait les choses avec sincérité, les gens aiment ça, parce que c'est l'humour qu'on fait dans notre quotidien. Dans notre quotidien, on se moque de nos collègues.
C'est
ce qu'on fait dans
les
quotidiens.
Vous dites tout haut ce que les gens pensent tout bas.
Mais il faut le faire vraiment avec des bonnes intentions.
Alors, vous terminez votre spectacle par toute une séquence, j'emmerde les uns les autres, les hommes politiques. C'est un peu une crise de confiance que vous traduisez vis-à-vis des politiques. Je voudrais connaître votre avis vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes en ce moment, qui traduit un peu la même chose d'une autre façon, non ?
Oh, je ne sais pas si ça traduit la même chose, parce que ce sont deux sujets vraiment très différents. À la fin du spectacle, c'est dans un contexte très particulier où effectivement je crie ma colère, et pour une fois je la crie de manière gratuite. Et après, donc ça n'a plutôt rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes. Mis à part que peut-être quand même, vous avez raison, finalement, la colère. Les Gilets jaunes, c'est la colère, c'est la représentation de la colère. Ce que je pense de ce mouvement, c'est qu'il est représentatif d'un point de vue général et d'un ras-le-bol général de la France. À force de systématiquement manipuler les gens, de leur mentir, de réduire leur liberté, de réduire leur expression, de réduire leur pouvoir d'achat, et surtout de leur mentir en permanence. Les gens ne sont pas bêtes. Alors, si tu es dans un pays où tu donnes ce qu'il faut aux gens pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent s'occuper correctement de leur famille, et que tu leur mens, ça passe à peu près, tu vois. Ça passe, saute, c'est pas
ouf. Mais là, ils sont arrivés au bout de quelque chose.
Mais là, en fait, tu détruis leur vie, leur liberté. Dès que tu sors la tête de chez toi, tu te fais alpaguer par un mec avec une facture. Tu sais même pas d'où il sort. Et en plus, quand tu vas aux élections, on te présente deux mecs, tu as envie de voter ni pour l'un ni pour l'autre.
C'est bien ce qu'expriment les Gilets jaunes, là, aujourd'hui. C'est vraiment dans la continuité de votre spectacle.
C'est pour ça que je dis que ce mouvement des Gilets jaunes, il ne faut pas le voir comme, je pense, un mouvement des Gilets jaunes, il faut le voir comme un état d'esprit général des Français. Parce que là, vous avez le mouvement des Gilets jaunes, c'est des gens qui ont la possibilité d'aller dans la rue, et ça ne représente pas forcément uniquement ceux qui ont envie de le faire. Parce que je pense que si tous ceux qui avaient envie d'y aller pouvaient y aller, je pense qu'il y a un peu plus de monde dans la rue.
Il y a 70% en gros des Français qui soutiennent le mouvement. Il y a eu deux sondages donc 7 Français sur 10, effectivement, c'est beaucoup.
Ce qui est normal. Même un mec qui n'a pas de bagnole, il va dire oui, ils ont raison. Parce que c'est juste d'arrêter.
Parce que c'est au-delà de la voiture.
Bien sûr, parce qu'on est bien au-delà de la voiture.
Votre prochain spectacle, ça va être sur quoi ?
Sur la santé.
Ah, d'accord. Ouais, c'est quand ? Et c'est pour quand ?
Ça va démarrer en janvier 2020. Là, je fais le travail de...
que c'est loin, d'habitude. Janvier 2020, dites-donc.
Ouais, 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 je sais que vous êtes impatient. Oui. Mais parce qu'il y a toujours un travail de.
Vous allez allumer encore quelques ONG qui tournent autour de la santé ou pas?
Ah, si, bah, ouais, j'imagine. Je les cible pas, mais si elles sont sur mon passage et que je trouve des choses
parce
sur elles.
Parce que vous documentez beaucoup, hein, ah oui, quand, quand vous travaillez vos spectacles.
Oui, en fait, je travaille toujours avec des professeurs. Par exemple, le vent de pièces à Beyrouth, j'ai bossé avec un prof de géopolitique. Comme moi, je suis pas allé à l'école, j'ai arrêté l'école très jeune. Je pensais pas que ça serait un avantage dans la vie, mais ça l'est parce que ça me permet de faire des spectacles avec des thèmes dits intelligents et de le faire de manière très populaire. C'est-à-dire que même si tu connais rien en géopolitique ou en histoire, tu peux regarder vent de pièces à Beyrouth, tu vas te marrer quand même parce que c'est dit par un mec qui est pas allé à l'école. Donc, du coup, je l'explique
tout
à ma manière.
Hein, c'est très précis.
Parce
c'est
que
vraiment,
on travaille beaucoup sur la précision. Parce que c'est très important. Déjà pour pas dire de conneries. Moi, ça, je m'en voudrais beaucoup de me rendre compte au bout de 2 ans que j'ai prôné quelque chose qui était faux et surtout pour essayer de rester objectif. Alors, quand on regarde mes shows, on se dit il est absolument pas objectif ni neutre. Mais au final, je me base uniquement sur des faits.
Neutre, non. Ça, vous n'êtes pas neutre.
En tout cas, je me base sur des faits. Je me base vraiment sur des faits. Et quand je dois prendre parti, je me mets toujours du parti de ceux qui veulent la paix. Comme ça, je me dis au moins, si j'ai dit une connerie, ça ne remet pas de l'eau
au moulin.
À part
quand vous dites, bon, bah, moi, je voterai blanc quand. Je voterai quand le vote blanc sera reconnu. Mais
ça sera comptabilisé. Ouais.
Ça sera comptabilisé, mais vous avez un positionnement politique un peu plus. Que vous détaillez un peu ou vous en restez à ce niveau-là?
Mon positionnement politique est que je ne vais pas voter. Et que j'irai voter quand on comptabilisera le vote blanc. Donc, pour le coup, il est assez clair. Ça veut dire que j'ai jamais été convaincu par. En fait, je suis totalement apolitique. Je ne fais partie d'aucun parti. Je n'ai jamais été convaincu par un des seuls des candidats qu'on nous a présentés jusqu'à présent.
Merci Jérémy Ferrari d'être venu ce matin sur Sud Radio. Donc, Vent de pièces à Beyrouth, votre spectacle sera diffusé samedi soir sur C8 à 21h. Et puis à 23h30, Jérémy Ferrari, emporté par la fougue, qui retrace votre carrière, et vous êtes très discret d'une manière générale sur
on
votre
quand
vie
même
privée.
Vos parents qui
Là c'est
ça vous a coûté bon ça a été ça vous a coûté de d'avoir la caméra avec vous pendant un an de Thierry Colby.
Ouais, c'était alors heureusement que c'était Thierry parce que il est d'une bienveillance c'est vrai que ça a été. Ça faisait longtemps qu'on me disait c'est bien de montrer un petit peu qui tu es.
C'est intéressant, oui, absolument, c'est très intéressant. Merci infiniment, Jérémy Ferrari. Nous, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour parler d'un sujet qui pourrait vous inspirer, la sexualité des Françaises. C'est sur Téva ce soir.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, en direct avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff qui sera avec Jean Lassalle. Voilà. Et nous, on parlera évidemment des Gilets jaunes à partir de 11h. Comment parler de la sexualité féminine à la télévision? Ce soir, Téva diffuse un documentaire assez étonnant, assez osé sur la sexualité des femmes. On est avec sa réalisatrice, Héloïse Mallet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le sexe à la télé, c'est pas évident, Rémi Pernelet.
Mais oui, Valérie, le sexe à la télé a longtemps été un sujet un peu délicat, je vais même dire très délicat. Pendant les premières années de la RTF, le sujet était complètement tabou, pas la moindre image ni scène un peu osée n'était diffusée. Jusqu'au 29 janvier 1961, où la diffusion d'une scène de nu, fugace hein, la scène, pendant le téléfilm de Maurice Cazeneuve, L'Exécution, a provoqué la fureur des journaux et d'associations catholiques, a été à l'origine d'une des plus célèbres innovations de la télé française.
Ah oui.
Vous avez une idée,
non,
Valérie?
Non,
non. Oui, bah, écoutez, 2 mois plus tard, le 26 mars 1961, le sous-directeur des programmes de l'ORTF expliquait en direct très sérieusement l'apparition d'un carré blanc sur l'écran pour signaler les programmes à risque, histoire, je cite, d'éviter aux téléspectateurs émotifs, en général, aux enfants en particulier, les spectacles traumatisants ou qui peuvent heurter gravement leur sensibilité. Résultat des films comme Riamère, Hôtel du Nord ou French Cancan ont eu droit au célèbre carré blanc. À l'époque, les seules femmes qui apparaissaient à la télévision en dehors des œuvres de fiction, c'était les speakerines.
Ouais.
Bras couverts, jupe longue. Ouais, il n'était pas question de montrer un genou, on se souvient de l'affaire Noël Noblecourt en 1964. Alors le carré blanc disparaît en 1979, pas parce qu'on ne censure plus, non, c'est parce que, selon le directeur des programmes de l'époque, un autre, c'était une incitation à regarder, en fait. Et alors, en 84, la création de Canal+ va être à l'origine d'une véritable révolution, puisqu'un film pornographique sera diffusé, encrypté, chaque premier samedi du mois à partir de juillet 85. Mais c'est en 1986, pour la première fois, qu'on se met à parler vraiment de sexe sur une chaîne publique et gratuite, avec l'arrivée de Sexy Folie, un magazine créé par Pascal Brugnaud sur Antenne 2. Ce magazine veut évoquer la sexualité des Français avec un ton décalé. Il est présenté par France Roche, qui nous explique le concept.
Bonsoir. Pour sa 2e édition, Sexy Folie va vous emmener à nouveau sur les chemins du désir, de la séduction, du plaisir, avec des reportages un peu coquin.
Bon, on voit le ton, hein. Il y avait des jeux façon striptease, on évoquait les méthodes de séduction, puis Mireille Dumas réalisait à l'époque une confession intime de star. Toujours en 86, France 3 diffuse le samedi soir tard un feuilleton érotique série Rose, et en 1987, M6 programme un film érotique tous les dimanches soirs en deuxième partie de soirée. Mais c'est avec le développement du câble, du satellite et surtout d'Internet que le sexe disparaît peu à peu des chaînes généralistes pour se retrouver en porno sur des chaînes payantes ou en sites spécialisés sur le web. En 2005, M6 arrête la diffusion de ses films du dimanche soir. Et aujourd'hui, le sexe se retrouve soit sur des chaînes à péage spécialisées, soit sur de façon très ouverte dans les nombreuses émissions de télé-réalité qui succèdent à Love Story et à la célébrissime scène de la piscine. Merci Loana et Jean-Edouard. Parce que des Marseillais aux ch'tis, en passant par Feu, Secret Story ou les princes de la télé-réalité, ou même dernièrement Koh-Lanta, il n'y a pas une émission où les rapports sexuels entre candidats ne deviennent un des moteurs du programme. Les producteurs expliquent généralement que c'est le signe de l'évolution des mœurs dans la société. Pour ma part, j'y vois surtout une façon de garantir des bonnes audiences à un genre, la télé-réalité en perte de vitesse. Ouais. Il reste qu'en 30 ans, la société a évidemment évolué sur la façon de considérer et de parler de sexualité. Il y a 3 ans, un documentaire réalisé par une ex-star du X pour Infrarouge sur France 2 avait réuni 700 000 téléspectateurs. Elle avait pour ambition d'expliquer comment les jeunes filles de la génération Y vivaient leur sexualité. L'influence de la culture porno à l'époque était évidente. Votre documentaire, lui, s'est intéressé à toutes les femmes de tous âges et de toutes régions. Le moins qu'on puisse dire est que, dans votre documentaire en tout cas, elles en parlent très directement aujourd'hui.
Très directement et très, très librement. C'est un programme assez étonnant, la télévision, puisque vous vous êtes baladé. Racontez-nous un petit peu comment vous avez procédé.
On a procédé comme un road trip. On est parti sur les routes du désir et du plaisir féminin.
Donc avec une petite camionnette, vous êtes allé partout en France interroger des femmes.
Équipé en mini-studio, en fait.
Voilà. Exactement, on a aménagé un petit studio ambulant à l'arrière de notre van et on espérait donc, avec ce cadre intimiste, libérer la parole. Et je pense qu'on a réussi.
Oui, vous avez plutôt réussi. Hein. C'est cash, direct et sans tabou.
Je ne m'attendais pas honnêtement à ce que ce soit aussi, une parole aussi libre et qu'on ait des anecdotes, des témoignages.
Elle raconte carrément des expériences extrêmement intimes.
Et puis vous avez tous les âges, de 19 à 78 ans, si j'ai bien vu.
Alors on a en ligne Mireille Dumas. Bonjour Mireille.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Rémi a évoqué Sexy Folie, l'une des premières émissions qui parlait de sexe à la télévision. Vous vous souvenez de la réaction à l'époque ?
Non, mais très bien. Je me souviens. Oui. Ce qui était amusant, c'est que les personnalités, les artistes participaient. C'est ça qui a changé. C'est qu'aujourd'hui, vous n'imaginez pas des artistes venant parler de leur sexualité à la télévision. Et on parle de Sexy Folie, mais il y a une grande série que Rémi n'a pas évoquée, mais il va s'en souvenir. C'est L'amour en France, qui était une série de 10 heures quand même dans les années 80. Moi, dans Ballet Masque, il y a eu Pichot. Dans Ballet Masque, on évoquait aussi des fantasmes féminins. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'époque, en fait, on en parlait. Il y avait une sexualité assez libre dans le milieu étudiant, artistique, intellectuel. On en parlait à la télévision plutôt en deuxième partie de soirée, mais on en parlait assez librement. Et en fait, là où ça a vraiment changé, basculé, c'est avec le sida. Ouais. C'est au milieu des années 90. D'ailleurs, SIDAction a été lancé dans les années 94. Et moi, j'ai regardé avant de vous appeler, mais le dernier que j'ai fait en parlant de sexualité vraiment féminine, c'était en 92. Vous voyez, ça a changé. Et pendant des années, finalement, on en a beaucoup moins parlé. On en a parlé sur un ton beaucoup plus grave. Ouais. Et puis, ça revient. En fait, il y a une libération de parole aujourd'hui. Et moi, ce que je note, ce qui a changé surtout, c'est qu'on en parle de façon plus libre dans tous les milieux. C'est ça qui a changé. Les femmes de tous milieux en parlent. Elles revendiquent un petit peu comme, en fait, elles revendiquent comme les hommes une sexualité épanouie. Et on sent qu'il y a moins de frustration aussi dans les femmes qui vivent en couple et dans tous les milieux. C'est ce qui me frappe le plus, moi. Et que le vrai sujet tabou, en fait, ce n'est plus la sexualité, c'est l'argent aujourd'hui.
Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a un changement. Merci Mireille Dumas. Vous reviendrez nous voir dans quelques temps pour nous parler de votre livre. Vous êtes intéressé aux chansons, donc c'est un autre sujet.
Non pas érotique, mais bon.
Mais vous viendrez bientôt. Merci, on avait envie en tout cas de vous entendre. Merci d'avoir été avec nous. Cette parole libérée, alors vous avez réalisé, Teva a réalisé un sondage Harris Interactive sur la sexualité des Françaises, qui est assez étonnant quand même. 71% des Françaises se déclarent satisfaites de la qualité de leur galipette. 66% des femmes sont satisfaites du nombre de fois qu'elles s'envoient en l'air, c'est comme ça que c'est formulé. 80% des femmes en couple sont comblées par leur vie sexuelle, contre 49% des célibataires.
Et ce qui est étonnant aussi, c'est que y a des femmes célibataires qui sont épanouies, parce que aujourd'hui on n'a pas besoin d'être en couple pour s'épanouir sexuellement. Mais c'est vrai que, comme disait Mireille Dumas, c'est important parce qu'aujourd'hui, où la parole se libère, la parole sur la sexualité subie, sur les violences sexuelles faites aux femmes, là j'ai senti qu'il y avait aussi un besoin de libérer une parole positive, décomplexée, sur une sexualité épanouie, sur des femmes qui sont actrices de leur sexualité et pas seulement vues comme des victimes.
C'était facile de les convaincre de venir s'exprimer, parce qu'elles s'expriment à visage découvert. Elles font des témoignages extrêmement précis sur est-ce que j'utilise ou pas.
Vous êtes allée à la brèche avec votre micro.
Alors j'avais prévu même de quoi les grimer un peu, parce que je me suis dit peut-être qu'on va pas avoir beaucoup de femmes à visage découvert. Et finalement, ça a été plus facile que ce que je pensais.
Elles savent que ça passe à la télé.
On les a pas ça. Il y avait 3 caméras dans le studio. Elles ont pas pu passer à côté. Mais c'est vrai que on a procédé un peu en amont, parce que on avait assez peu de temps de tournage sur place, et puis on se retrouvait le lundi matin sur une petite place en Moselle à 8h. Il fallait encore que la femme soit disponible pour témoigner pendant 2 heures, c'était long. Donc on avait quand même prévu des rendez-vous avec des femmes qu'on avait trouvées par les réseaux sociaux, par la presse quotidienne régionale, des speed dating seniors, on avait fait un casting, et on s'est quand même laissé la liberté de trouver des femmes qui accepteraient de monter à la volée.
Mais c'est quand même des femmes qui avaient une parole libérée, c'est-à-dire que si elles sont sur des sites de speed dating ou que elles sont un peu dans cet environnement, avec plus de facilité que d'être allées, si vous étiez allées à la pêche comme ça.
Effectivement, il y a le biais de la télé. Effectivement, c'est des femmes qui sont un peu plus courageuses, un peu plus libérées, un peu plus ouvertes d'esprit que la moyenne, et qui se sont intéressées à la sexualité, qui ont réfléchi. Après, c'est des femmes normales. C'est important de le dire, parce qu'il y a des programmes à l'étranger qui sont un peu équivalents, surtout les programmes anglo-saxons, où quand on a une parole sur la sexualité, souvent c'est des professionnels du sexe, des acteurs porno, des gens qui ont des choses à nous vendre, comme des vendeurs de sextoys. Là, c'est pas le cas du tout.
Vous mettez en perspective avec des psychologues, sexologues qui réagissent.
On a une sexologue, une sociologue, une sexothérapeute qui viennent décrypter ces paroles.
Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand même dans soit une des témoins ou alors dans ce qui a été dit?
En fait, il y a eu beaucoup de surprises. C'est vrai que les femmes les plus âgées m'ont épatée. Parce que j'ai deux femmes, notamment qui s'appellent Danielle, toutes les deux, une de 78 ans, une autre de 73 ans, qui
disent que c'est jamais été aussi bien.
Voilà, exactement. Et elles sont, je pense, représentatives de la sexualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont vécu une sexualité conventionnelle, classique. Elles ont vécu ça et elles en sont sorties.
Pas que quand même. Hein. Parfois, dans les témoignages, qui ont vécu des sexualités assez riches.
Oui, mais pour ces deux femmes âgées, on s'attend à ce qu'il y ait des différences intergénérationnelles, que les jeunes nous disent des choses, que les femmes âgées nous disent d'autres choses. Et là, avec ces femmes-là, septuagénaires, pas du tout. On s'est rendu compte qu'elles ont mûri. On leur avait appris que la sexualité, c'était un couple, un homme, une femme, un mari, et que c'était le missionnaire le samedi soir qu'il ne fallait pas se regarder. La fidélité. Et en fait, elles sont sorties de ce schéma. Là, elles ont mûri, elles ont réfléchi à ce qu'elles voulaient comme sexualité, et elles ont une parole très libre, et c'est surprenant. Après, il y a eu d'autres surprises. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'une femme essaye en direct un sextoys pour tétons dans le van, choses qu'on parle de masturbation pendant la grossesse. Enfin, j'ai vraiment eu des témoignages surprenants.
Et vous craignez pas de choquer les téléspectateurs? C'est une question que vous posez ou pas?
Je me demande. J'espère que. En fait, je sais pas. Peut-être que c'est pas mal de les choquer, mais je pense que c'est drôle, que ça va passer, que le message il peut passer facilement, parce qu'en fait elles en parlent assez librement, mais elles n'ont pas toute une sexualité libérée. C'est leur parole qui est libérée. Il y en a certaines qui sont par exemple, Iris, qui est très jeune, qui a 19 ans, elle est très complexée de n'avoir jamais eu d'orgasme, de ne pas se masturber, mais elle en parle librement. Et ça, je pense que c'est quand même...
On peut rendre hommage à Brigitte Lahaye, qui est sur l'antenne de Sud Radio tous les jours entre 14h et 16h, et qui a contribué à libérer cette parole et qui a aidé beaucoup, beaucoup de femmes. Est-ce que c'est un programme qu'M6 pourrait diffuser ? Parce qu'on s'est posé la question, c'était quand même assez... Enfin, c'est une production ambitieuse qui a pris du temps.
Oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est en première partie de soirée, parce que contrairement à ce que disait Mireille Dumas tout à l'heure, c'était souvent réservé, relayé, cantonné aux deuxièmes parties de soirée. Là, c'est une première partie de soirée. Je pense que c'est peut-être un test. Voilà,
pour voir si ça peut fonctionner. Peut-être que M6 le diffusera. Ce serait assez gonflé. Sympa. Merci beaucoup, Héloïse Mallet, d'être venue aujourd'hui. Et ce soir, donc, Les Françaises au lit, c'est à 21h sur Téva, un documentaire... encore une fois, assez étonnant, intéressant, très intéressant sur la sexualité des femmes.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors, 30 secondes pour convaincre, c'est très particulier. C'est la première fois que le service public utilise Instagram pour diffuser de l'information. Depuis le 20 novembre, France Info, le canal 27 et France TV Slash sont sur le terrain pour une série de reportages inédits qui sont diffusés d'abord sous forme de story sur Instagram. On a voulu en savoir plus et c'est Julien Pain qui va nous expliquer et nous convaincre de regarder ce programme.
Alors, je fais un reportage à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh avec la communauté Rohingya qui est, selon les mots de l'ONU, victime d'un génocide. Voilà, jusque-là, ça a l'air d'un reportage tout à fait classique, mais pas du tout. C'est un reportage que je vais faire d'abord sous forme de stories Instagram. Donc, c'est un réseau social et le but, c'est de toucher les jeunes. Pourquoi ? Eh bien, c'est pour réconcilier enfin un petit peu les jeunes avec le grand reportage et puis avec le journalisme de qualité. Voilà.
Bon, et ben voilà, une nouveauté. Rémi, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir, à part Les Françaises au lit ?
Eh ben écoutez, à part Les Françaises au lit, il y a Munch, la série avec Isabelle Nanty sur TF1, une série judiciaire. Il y a évidemment l'émission politique avec le grand retour de Nicolas Hulot sur France 2. Aux animaux, la guerre, une série dramatique.
Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé, je vous conseille de le regarder parce que même si ça peut paraître glauque, c'est très très bien fait.
Et puis La Faute, une série de suspense avec Valérie Carcenti et Natacha Lanager sur M6. Donc voilà, après en pronostic, on peut penser que Munch marche toujours bien sur TF1.
Bien, ouais.
Mais que le retour de Nicolas Hulot sur l'émission politique pourrait donner un très bon score à l'émission politique. Donc, après La Faute sur M6, moi je pense que ça peut être 1-6-2. Allez, voilà.
1-6-2, je suis d'accord avec vous. Et puis Téva en tête des chaînes de la TNT.
Merci
à vous. Merci. On se retrouve, nous, dans quelques instants. On va parler des gilets jaunes, évidemment, et puis de la réforme de la justice des mineurs. À tout de suite.